Chapitre 36. Mère inquisitrice? Callan releva la tête, battit des paupières et, après quelques secondes, reconnut la visiteuse qui venait d'entrer sous la tente. C'était Verna, la dame abbesse officielle des Sœurs de la Lumière. Callan se frotta les yeux. Très austère dans sa robe grise de laine, à peine égayée par la dentelle qui ornait le col, et son manteau marron foncé, Verna semblait très mal à l'aise. « Que voulez-vous ? Vous parlez, si vous avez un moment. » Sans nul doute, Warren avait fait son rapport à la sœur. Chaque fois que Callan les avait vus ensemble, le futur prophète et la dame abbesse lui avaient paru très intimes. Ils échangeaient sans cesse des regards complices et se frôlaient dès qu'ils le pouvaient. Bref, le même genre de rapport qu'entre Richard et elle. Imaginer Verna en femme amoureuse n'était pas facile, mais après tout, beaucoup de gens trouvaient difficile de croire que la mère inquisitrice avait des sentiments comme n'importe qui. Cela dit, Verna venait sans doute parler d'Anna et de prophétie, et Callan n'était pas d'humeur à polémiquer.
Cara, combien de temps ai-je dormi?
Quelques heures. Il fera bientôt nuit.
Les épaules et le cou ankylosés, rien de plus normal après un long moment passé dans une position inconfortable, Callan s'étira puis jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Assise sur un banc, la dame des ossements la couvait du regard.
« Comment vas-tu ? »
demanda Adi.
« Très bien. Les hommes se sont mis en route ?»«
Les deux groupes, oui. Il y a un peu plus d'une heure. Les Galéiens sont partis en colonne comme prévu. » Les Keltiens ont procédé beaucoup plus discrètement.
Très bien.
L'ordre risquait d'attaquer dès le lendemain matin. Au moins, le piège serait en place, c'était à présent certain. L'approche du combat nouait toujours l'estomac de l'inquisitrice. Il en allait de même pour les soldats qui dormiraient peu et mal cette nuit.
Après le départ des Galéiens, je suis revenu ici pour aider Cara à veiller sur ton repos.
Callan remercia la vieille femme d'un sourire. Adi avait dû juger qu'elle avait assez dormi ou penser que la visite de Verna était de la plus haute importance.
« Je vous écoute, dame abbesse. Nous avons, eh bien, découvert quelque chose. En fait, il s'agit plutôt d'une idée que nous avons eue.
Qui est-ce nous ? »
Verna s'éclaircit la gorge. Avant de continuer, elle implora mentalement le Créateur de la pardonner d'avance.
« Pour être franche, c'est mon idée. Des sœurs m'ont aidé, mais ça vient de moi, et je suis prête à en assumer toutes les conséquences. »
« Une étrange façon de présenter les choses, » pensa Callan. Verna ne semblait pas enthousiasmée par sa propre découverte. Dans ce cas, pourquoi venait-elle lui en parler ?«
Depuis le début, » continua la dame abbesse, « nous avons du mal à traverser les boucliers magiques de l'ordre. » Jagan détient des sœurs de la lumière et de l'obscurité, et vous savez que la magie soustractive nous dépasse. Quand nous tentons d'envoyer des choses...
Des choses ?
Des armes.
Voyant que Callan avait du mal à suivre, Verna se pencha, ramassa une poignée de cailloux sur le sol et tendit la main, paume ouverte.
Zed nous a montré comment transformer en armes terrifiantes les objets les plus simples. Par exemple, avec notre pouvoir, il est possible de lancer ces cailloux sur une très longue distance. Propulsés par la magie, ils font des ravages dans les rangs ennemis. Un seul peut traverser la poitrine de 10 hommes.
J'ai eu un rapport sur cette tactique.
Nous y avons renoncé parce que les magiciennes adverses ont trouvé une parade, comme à d'autres sortilèges qui nous étaient bien utiles d'ailleurs. C'est ce que dit toujours Zed. Dans une guerre, la magie est souvent sans influence parce que les deux camps se neutralisent.
« Exactement. Au début, l'ordre tentait de nous perturber en imitant le son de nos cornes, mais Zed leur a ajouté une signature magique, et les ennuis ont été terminés. Tout se déroule selon ce schéma. »
Callan resserra autour d'elle les pans de son manteau. Morte de froid, elle ne parvenait plus à se réchauffer à force de passer son temps à battre la campagne. Livrer une guerre dans de telles conditions était de la folie. Cela dit, s'étriper par beau temps ne devait rien avoir de plus drôle, mais elle aurait donné cher pour passer ses journées sous un toit près d'un bon feu de cheminée.
« Alors, Verna, votre fameuse idée ?»« Eh bien, puisque nos adversaires détectent les armes magiques, je me suis dit que nous devions leur opposer des forces sans lien avec le surnaturel. »«
Elles existent déjà, » lâcha Callan.
On appelle ça une armée ?
Non, je me suis mal exprimé. Je pensais à une attaque que les Sœurs de la Lumière pourraient lancer, mais qui ne mettrait pas en danger la vie de nos hommes.
Intrigué, Adi se leva et, en boitillant, vint se placer derrière Kalan. Verna glissa une main dans sa poche et en sortit une petite bourse de cuir fermée par un cordon. La jetant sur la table devant Kalan, elle posa à côté une feuille de parchemin.
« Versez un peu du contenu de la bourse sur la feuille, »
dit Verna. Elle avait plaqué une main sur son ventre, comme si la nausée la torturait.
« Surtout, ne touchez pas à cette matière. Évitez qu'elle entre en contact avec votre peau et ne soufflez pas dessus. Le mieux serait de retenir votre respiration. »
Adi se pencha pour mieux voir, tandis que Kalan ouvrait la bourse et déposait sur la feuille une petite quantité d'une sorte de poussière verdâtre brillante.
« Qu'est-ce que c'est ? Du sable magique ?»«
Non, du verre. »
« Et vous pensez avoir découvert le verre ?»
Verna haussa les épaules, consciente qu'elle devait passer pour une demi-folle.
« Non, j'ai simplement eu l'idée de le piler. Mère inquisitrice, c'est du verre tout à fait banal, mais concassé au point d'être presque réduit en poudre. Pour obtenir ce résultat, nous n'avons pas seulement utilisé un pilon et un mortier, mais également notre han. Du coup, ces fragments minuscules sont très spéciaux. »
Verna se pencha à son tour sur la feuille et Kara l'imita.
Si petits qu'ils soient, ces éclats sont très tranchants, et chacun d'eux ne pèse pas plus qu'un véritable grain de poussière.
Par les esprits du bien,
soupira Adi avant de réciter une prière dans sa langue natale.
Je ne comprends pas vraiment,
avoua Kalan.
Mère inquisitrice, nos sorts ne parviennent pas à traverser les défenses adverses. Les cailloux, par exemple, n'atteignent jamais leur cible parce que c'est la magie qui les anime. Ce verre, en revanche, n'a aucune propriété magique, même si nous avons recouru à nos han pour le briser. C'est une matière inerte, comme la poussière que soulèvent les bottes des soldats. Les forces magiques adverses n'y détecteront aucun pouvoir parce qu'il n'y en a pas. Leur don leur indiquera qu'il s'agit d'une banale colonne de poussière ou peut-être de brouillard selon les conditions climatiques. Nous avons déjà essayé d'expédier des nuages de brume sur nos ennemis, par exemple pour leur faire attraper une maladie, mais là aussi ils ont trouvé la parade. Parce qu'il s'agissait de nuages magiques, ceux-là ne le seront pas. Grâce à leur poids infinitésimal, ces fragments seront portés par le vent sur une très longue distance. Un sort les mettra en mouvement, mais ensuite, il s'agira d'un phénomène naturel. Plus une once de magie, et il suffira de les laisser flotter jusque dans les rangs de l'ordre.
D'accord, mais quel mal feront-ils aux soldats ?
Ils pénétreront dans leurs yeux,
souffla Adi, accablé.
C'est ça, oui, comme de classiques grains de poussière. Les soudards de l'ordre battront des paupières pour les chasser, mais les fragments infligeront des centaines de microscopiques coupures à leur cornée. Plus ils insisteront, plus les dégâts seront graves. Au bout du compte, ils deviendront aveugles.
Kala n'en crut pas ses oreilles.
Comment pouvait-on avoir des idées pareilles ?
Vous en êtes sûr ?
Demanda Kara.
Ça ne risque pas seulement de leur irriter les yeux et de les faire pleurer ?
Absolument pas. Pendant nos expériences, il y a eu un accident. Et nous connaissons très précisément les effets de cette arme. De plus, elle provoque probablement davantage de dommages encore lorsque les fragments s'introduisent dans les voies respiratoires ou digestives. Mais là-dessus, nous n'avons pas de données fiables pour le moment. Une chose est sûre, si un soldat aveugle ne meurt pas, il ne peut plus se défendre.
D'habitude enthousiaste, dès qu'on lui proposait une nouvelle manière de tuer ses ennemis, Kara parut plus que dubitative.
Nous n'aurons plus qu'à les égorger comme à l'abattoir.
Kalan se prit la tête à deux mains et se cacha les yeux derrière ses doigts.
« Vous voulez mon autorisation avant d'utiliser cette arme, c'est ça ?»
Verna ne répondit pas.
« Allons, pourquoi seriez-vous ici sinon ?»«
Mère inquisitrice, vous savez que les Sœurs de la Lumière détestent faire du mal aux êtres humains. Mais l'enjeu de cette guerre est tout simplement la survie du monde libre. Si Richard était là, j'ai pensé que vous voudriez savoir et décider de donner l'ordre ou non d'utiliser cette arme. Dame Abbesse, aujourd'hui j'ai tué un enfant. Pas accidentellement, mais parce qu'il le fallait. Si la menace se présente de nouveau, je recommencerai sans hésiter. Mais ça ne m'aidera pas à dormir plus paisiblement.
Un enfant, répéta Verna.
C'était vraiment nécessaire? Il s'appelait Lyle. Je crois que vous le connaissiez. Une autre victime d'Anna et des Sœurs de la Lumière.
Blanche comme un linge, Verna baissa les yeux.
Quand on a tué un enfant, continua Callan, pourquoi refuserait-on d'utiliser une arme terrifiante contre les monstres qui transforment les gosses en guerriers? J'ai juré de n'avoir aucune pitié pour l'ordre, et ce n'étaient pas des paroles en l'air.
Adi posa une main sur l'épaule de Callan.
Mère inquisitrice, je comprends vos sentiments, dit Verna. Anna m'a également manipulé, et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, persuadée qu'elle abusait de son pouvoir dans son propre intérêt. Pendant un temps, je l'ai méprisée. Et vous avez toutes les raisons du monde de lui en vouloir. Mais j'ai tort, allez-vous sans doute ajouter. À votre place, je n'en serais pas si sûr. Ce n'est pas vous qui avez dû abattre un petit garçon aujourd'hui.
Verna parut comprendre, mais elle n'émit pas de commentaire.
Adi, demanda Callan, pourrez-vous faire quelque chose pour la Sœur de la Lumière qui a perdu la vue accidentellement?
Je vais essayer. Verna, emmenez-moi voir cette malheureuse.
Alors que les deux femmes se dirigeaient vers la sortie, Callan sursauta.
Vous avez entendu ça?
Demanda-t-elle.
Les cornes?
Fit Verna. Elle tendit l'oreille, très concentrée.
Elle sonne bien l'alarme, dit-elle enfin. Mais il manque la signature magique dont je parlais. L'ennemi nous fait de plus en plus souvent ce coup-là.
Pourquoi?
Je ne comprends pas votre question.
Pourquoi l'ordre s'acharne-t-il puisque ça ne marche pas? C'est absurde.
Là, je suis incapable de répondre. Mais vous savez, je ne suis pas experte en tactique militaire.
Kara tourna la tête pour jeter un coup d'œil dehors.
Des éclaireurs reviennent peut-être au camp.
Callan écouta attentivement. On entendait des roulements de sabots, mais c'était monnaie courante dans un campement. Comme le suggérait la mort de Sith, des éclaireurs rentraient peut-être de mission, mais on eût plutôt dit des sabots de destrier. Des cris retentirent, suivis par des cliquettements d'épées. Callan se leva et dégaina sa lame royale. Mais la tente vibra soudain, comme si quelque chose l'avait percutée. La toile s'inclina, des pointes de lance en jaillirent, puis elle s'effondra sur les quatre femmes. Callan fut écrasée et jetée au sol par l'impact et le poids de la toile. Prise au piège, elle entendit des roulements de sabots près de sa tête. La lampe à huile s'étant renversée, la toile s'embrasa comme du parchemin. Toussant à cause de la fumée, l'inquisitrice comprit qu'elle était coincée sous une tente écroulée qui glissait sur la terre parce que des chevaux la tractaient.